Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle.
Mesdames et messieurs, bonjour. Alors vous en souvenez, dans la séance consacrée à la Déclaration des droits de l'homme, début février, j'avais insisté sur une tension et même une contradiction fondamentale à l'œuvre dans les premiers mois de la Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen se présente sous une forme très générale comme une série d'axiomes hérités de la philosophie des Lumières. Et donc des axiomes à vocation universelle. Quand je lis « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », il est facile de comprendre tous les hommes, tous les êtres humains. Mais cette universalité des droits n'est qu'un des aspects, car en août 1789, nous l'avons vu, il s'agissait avant tout de construire une société politique fondée sur un principe égalitaire et démocratique. Il faut alors lire ainsi le premier article de la Déclaration. Les citoyens français, dans le cadre de la nation, naissent libres et égaux parce que les droits qui leur appartiennent, leur appartiennent naturellement en tant qu'ils sont des hommes. Ce qui est un peu différent. Nous avions vu ensuite qu'un des premiers problèmes qui avait surgi était celui des esclaves et des libres de couleur. La question qui se posait alors était à qui s'appliquent ces droits ? Qui, au sein de la nation, peut se réclamer de cette égalité naturelle qui fait de lui un citoyen ? Aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est une autre question que je veux soulever, parallèle, si vous voulez, celle des liens complexes entre les droits de l'homme en tant que membre du genre humain et les droits du citoyen en tant que membre de la communauté politique. Autrement dit, la question est comment articuler l'idée cosmopolite de droits universels fondée sur la nature humaine et le principe de la souveraineté fondée sur la volonté du peuple et la cohésion de la nation. Je vous rappelle l'article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Dès lors, une question se pose immédiatement, c'est celle qui fonde la dimension politique des droits, c'est-à-dire la question de la représentation. N'oubliez pas que ce sont les représentants du peuple français qui ont déclaré les droits de l'homme et du citoyen selon le préambule de la Déclaration. Or, si ces représentants du peuple français, ces députés, représentent la nation, qui représente l'humanité ? Qui parlera au nom de ceux qui ne sont pas représentés ? Comment rendre tangible leur adhésion au principe des droits et leur inclusion dans le périmètre de la souveraineté. Ou alors, faut-il au contraire élargir le périmètre de cette souveraineté à l'extrême, au point de la faire se confondre avec l'humanité elle-même ? Au point d'effacer, et c'est tout le paradoxe, le principe national qui est au cœur de la Révolution, qui lui donne son impulsion, qui lui donne sa dynamique, qui lui donne son inscription politique. Alors ce sont des questions que je vais aborder aujourd'hui en m'appuyant essentiellement sur le parcours et l'œuvre d'Anacharsis Klotz, une figure un peu méconnue, mais qui a joué un rôle non négligeable pendant la Révolution, qui est surtout celui qui a poussé le plus loin le principe universaliste des droits en proposant qu'on peut appeler un cosmopolitisme radical fondé sur le principe d'une république universelle du genre humain. Auparavant, en guise de préambule, si vous voulez, je partirai d'un autre auteur qui fait parfaitement le lien entre les Lumières et la Révolution, entre le cosmopolitisme des philosophes du XVIIIe siècle et l'universalisme révolutionnaire, et c'est Volney. Volney est un auteur fascinant, enfin à mes yeux, auquel j'ai déjà consacré un chapitre dans l'héritage des Lumières, mais je voudrais y revenir rapidement aujourd'hui sous un angle un peu différent, car il nous introduit parfaitement au potentiel universaliste de la Révolution, mais aussi à ses apories. Alors, qui est Volney ? À la veille de la Révolution, c'est un écrivain, un philosophe, un voyageur, héritier revendiqué des encyclopédistes, proche des milieux matérialistes qui se réunissent chez le baron d'Holbach ou chez Madame Helvétius. Avant la Révolution, il a voyagé en Égypte et en Syrie dans les années 1780 et en a tiré un récit de voyage qu'il publie en 1787 et qui connaît un succès certain. Le livre servira ensuite d'ailleurs de référence à Bonaparte au moment de mettre sur pied l'expédition d'Égypte, une dizaine d'années plus tard. Mais Volney n'est pas comme ces écrivains voyageurs d'aujourd'hui qui ne cherchent dans l'ailleurs que l'exotisme rassurant d'une nature vierge de toute civilisation. Non, Volney, lui, est passionné par les sociétés qu'il visite et qu'il rencontre. Il a appris l'arabe et il cherche à rendre compte, en sociologue avant l'heure, si vous voulez, de ce qu'il découvre. Au moment où éclate la Révolution, Volney s'engage avec enthousiasme. Il publie à Rennes un journal intitulé « La Sentinelle du Peuple », puis se fait élire député du tiers aux États généraux. En 1791, il publie son livre le plus connu, qui s'intitule « Les ruines » ou « Méditations sur les révolutions des empires ». Le livre connaît un grand succès, connaîtra un succès durable au XIXe siècle, y compris par exemple dans les milieux radicaux britanniques. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il se situe fictivement à la veille de la Révolution. Le narrateur visite les ruines de Palmyre, que Volney lui-même avait visitées, et il se plonge dans une sorte de méditation mélancolique sur l'histoire et sur la disparition des grandes civilisations du passé. À ce moment-là, un génie lui apparaît, sortant des ruines, et pour l'arracher à sa morosité, il lui fait voir ce que l'avenir prépare. Nous sommes censés être en 1787. Or, que prépare l'avenir ? Eh bien, c'est la Révolution française, ce grand moment de soulèvement collectif au nom des droits de l'homme. Alors, je ne vous décris pas, je ne refais pas ici l'analyse des ruines, qui est un livre d'une grande richesse, qui propose à la fois une théorie de l'histoire, celle des progrès de la civilisation des Lumières, et une théorie de la Révolution. Il y a un point précis qui m'intéresse aujourd'hui, dont je voudrais vous parler, c'est le moment où Volney passe de cette fausse prophétie du génie, qui est en réalité, évidemment, pourquoi fausse prophétie, puisqu'elle décrit une révolution à venir, mais qui est déjà advenue au moment où Volney écrit et publie son livre en 1791. Donc le passage de la fausse prophétie à la véritable utopie, c'est-à-dire celle d'un ralliement universel de tous les peuples à la Révolution. Alors il n'est pas du tout anodin que Volney ait situé son livre à Palmyre. Il s'agit bien de regarder la Révolution depuis l'extérieur, c'est-à-dire depuis l'Asie. Cet exercice de décentrement du regard, comme on dirait aujourd'hui, lui permet de poser une question qui échappe au prisme de la souveraineté politique nationale. Comment s'assurer que les principes universels de la politique moderne, c'est-à-dire la liberté et l'égalité, seront bien mis en œuvre universellement? Et pour cela, Volney imagine une assemblée générale des peuples où des représentants venus du monde entier viendraient se dépouiller de leur culture, de leurs croyances, de leurs traditions, à la façon, si vous voulez, dont les députés des différentes provinces et des différents ordres ont renoncé le 4 août 1789 à leurs privilèges. Et nous retrouvons ici, mais dans un contexte bien sûr différent, ce motif de l'Assemblée des députés des peuples du monde, que nous avions rencontré déjà chez Voltaire, si vous vous en souvenez, dans le texte sur la Bourse de Londres. Sauf que, chez Voltaire, le thème politique, le congrès des peuples du monde, était en réalité gommé, totalement absorbé par la logique marchande. Les députés n'avaient pas à s'accorder politiquement puisque le commerce, c'est-à-dire l'intérêt économique, suffisait à produire l'harmonie sociale à travers la convergence des intérêts. Chez Volney, au contraire, la question politique reprend toute sa place. Il s'agit de mettre en scène une véritable représentation politique de l'humanité, élargissant à l'échelle du globe la dynamique émancipatrice et unificatrice de la Révolution française. Alors, comment s'y prend-il ? Eh bien, le texte commence par mettre en scène, avec une certaine complaisance, la diversité à la fois physique et culturelle de cette multitude. Puisqu'on voit arriver, tous les délégués, et sur plusieurs pages défilent non seulement l'européen et l'asiatique, mais encore, je cite Volney, les peuples africains à la peau d'ébène, aux cheveux laineux, aux corps ceints de pagnes blancs et bleus, mais aussi le Samoyed au corps brûlant à l'odeur forte, le Tongouze au bonnet cornu portant ses idoles pendant sur son sein, le Malais aux grandes oreilles, ou encore les habitants tatoués des îles de l'océan et du continent antipode. Et cette dernière mention, évidemment, me ravit, car elle signifie la présence d'Aotourou et d'Omaï à cette grande fête de la Révolution universelle, hein, donc les habitants tatoués des îles de l'océan et du continent antipode. Alors, que signifie exactement cette insistance sur la diversité physique, la diversité anthropologique de l'espèce humaine ? À la première lecture, on peut être troublé, je l'ai été, par ce qui pourrait apparaître comme une forme d'exotisme facile. Mais ce serait une erreur absolue d'y voir une forme de racisme sous-jacent. Volney était extrêmement attaché à l'idée d'une unité de la nature humaine. Non seulement il était farouchement hostile à l'esclavage et à la colonisation, mais par exemple, il a été premier à défendre la thèse qui sera ensuite, bien plus tard, reprise par les théoriciens afrocentristes, la thèse selon laquelle les habitants de l'Égypte ancienne étaient noirs. En fait, la leçon de Volney, c'est un des auteurs les plus insoupçonnables sur ce plan. Alors, comment comprendre, du coup, cette insistance sur cette diversité physique ? Eh bien, il me semble que la leçon de Volney dans ce texte est le fruit de son expérience de voyageur et de sa réflexion politique. Elle signifie ceci. L'universel ne s'observe pas. Ce qui s'offre à l'expérience, ce qui s'offre au regard, c'est plutôt l'inventaire des différences. C'est le spectacle d'une humanité bigarrée, c'est l'infinie variation des couleurs de peau, des pratiques linguistiques, des façons de s'habiller, des usages du corps. Les principes universels sur lesquels se fonde la Révolution, à l'inverse, sont d'une simplicité totale, la liberté, l'égalité. En les proclamant, la Révolution a ouvert ce que Volney appelle un siècle nouveau, où les sociétés humaines seront enfin conformes à la loi naturelle. Mais ces principes, eux, ne sont pas directement accessibles à l'expérience. Ils doivent être dévoilés par la raison dans un mouvement intellectuel qui est aussi un geste politique. C'est pour ça qu'ils doivent être déclarés. Chaque peuple doit désormais reproduire à l'égard de ses propres maîtres et de ses propres préjugés le geste d'affranchissement effectué par les Français. Or, c'est ici que les choses se gâtent. L'Assemblée ne se déroule pas comme prévu. Loin d'aboutir à l'enthousiasme consensuel de la nuit du 4 août, la confrontation des opinions dégénère en d'interminables querelles théologiques et métaphysiques où se déploie, après la diversité physique, celle des croyances et des préjugés. Si bien que les législateurs doivent, ce que Volney appelle les législateurs, doivent reprendre le contrôle de la discussion et de la situation. Devant l'irréconciliable pluralité des croyances, dont ils dénoncent le caractère chimérique et néfaste, ils appellent les hommes à ôter tout effet civil aux opinions théologiques et religieuses. Et ils appellent à s'en remettre aux lois de la nature, en prenant exemple sur la révolution d'une grande nation. Grande nation, c'est la formule utilisée ici par Volney. Ils décident donc de répudier leurs chefs et leurs clergés, et les représentants des peuples se rallient aux législateurs avec, dans un discours absolument enthousiaste que je vais citer. Je cite. Alors, un cri immense s'éleva de toutes les parties de l'Assemblée, et l'universalité des peuples, par un mouvement unanime témoignant son adhésion aux paroles des législateurs, dit « Reprenez votre saint et sublime ouvrage et portez-le à sa perfection, mais que ce ne soit plus pour une seule nation, pour une seule famille. Soyez les législateurs de tout le genre humain. Ainsi, vous serez l'interprète de la même nature. Montrez-nous la ligne qui sépare le monde des chimères de celui des réalités et enseignez-nous, après tant de religions, d'illusions et d'erreurs, la religion de l'évidence et de la vérité. L'universalisme des droits de l'homme, ou du moins leur généralisation à l'échelle du globe, repose donc sur la fiction d'un accord unanime de l'ensemble des députés de l'universalité des peuples. Alors voyez bien que toute l'ambiguïté de l'Assemblée des peuples imaginée ici par Volney, c'est que l'universalisme auquel elle aboutit n'est pas le fruit d'une délibération. La rencontre des représentants des peuples ne fait pas émerger par l'échange ou la confrontation des principes sur lesquels des peuples aussi différents pourraient s'entendre. À l'inverse, elle met en scène le désaccord, l'impossibilité de discuter sur la base de traditions, de croyances, de coutumes qui ne sont que des préjugés entretenus par les prêtres. L'accès à l'universel implique donc l'abandon de toutes ces superstitions et le ralliement rationnel aux principes édictés par les législateurs. Alors, il est probable d'ailleurs qu'il faille entendre dans ce terme de législateur qui revient la figure classique du législateur comme Solon pour les Athéniens ou Numa pour les Romains. Et la notion avait été remise à l'honneur par Rousseau qui en fait une figure importante, quoique ambiguë, du contrat social, le législateur étant celui qui, en amont même de la volonté, de l'expression de la volonté générale, permet au peuple d'exister en tant que communauté politique. C'est ça le rôle dans le contrat social du législateur. Pourquoi ? Parce qu'il va lui donner non pas des lois au sens positif et classique du terme, mais plutôt des mœurs communes, qui donc lui permet ensuite d'exister comme peuple politique. Or, dans le cas présent, les législateurs, qui sont donc les législateurs de l'humanité, mais sont aussi des législateurs au sens propre, au sens plus classique du terme, c'est-à-dire ces députés français occupés à produire une constitution et donc appelés à enseigner au monde entier les lois de la nature qui sont au fondement des nouvelles normes politiques proclamées par la Révolution. Alors vous voyez, le ralliement à l'universel n'est pas le fruit d'une négociation ni d'une délibération. Il est un renoncement à l'histoire au nom de la nature. La recherche de la vérité n'émerge pas d'un dialogue public des cultures et des croyances, mais d'un ralliement à la loi naturelle. Or, cette vérité, inscrite dans la loi naturelle, comme nous l'avons vu, elle n'est pas immédiatement accessible à l'expérience. Elle est doublement dissimulée. Elle est dissimulée par la diversité physique et culturelle des peuples, et elle est dissimulée par des siècles d'oppression cléricale et politique. Elle doit donc être interprétée, et interprétée par qui ? Par les sages législateurs de la grande nation qui ont établi le code rationnel et universel de la nature dont les autres peuples sont invités à reconnaître l'évidence et la vérité. Alors, quelle est cette grande nation ? Eh bien, habilement, Volney ne la cite pas. Il efface en quelque sorte le nom de la France, qui est en fait évidemment le nom évident, comme pour maintenir la fiction d'une législation véritablement universelle. Et cette fiction désigne précisément le point aveugle de la proposition, car la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme sont bien l'œuvre d'une nation spécifique, le résultat d'un long processus historique de transformation des mœurs, de diffusion des lumières, de constitution d'une opinion publique. Supposer que le geste politique de reconnaissance des droits puisse effectuer en une nuit le travail de civilisation nécessaire pour rendre les droits de l'homme acceptables et désirables, c'est effacer l'épaisseur temporelle qui était au cœur de tous les discours de l'universalisme historique dont nous avons parlé. Si bien que la fiction de l'Assemblée des peuples présente un double mérite. Sur le plan théorique, elle explicite l'idée selon laquelle les différentes populations doivent reconnaître le caractère universel des principes édictés par les députés français. Sur le plan narratif, elle permet d'éviter la question épineuse de savoir comment ces populations seront effectivement convaincues. En somme, elle n'a qu'un défaut, c'est de rester une fiction. Les ruines, ce livre de Volney, est publié, enfin, les ruines sont publiées en 1791, un an plus tôt, Anacharsis Klotz avait mis en scène, de façon à la fois plus modeste, mais aussi plus concrète, ce même ralliement des peuples du monde à la Révolution. Le 19 juin 1790, il s'était en effet présenté à l'Assemblée nationale à la tête d'une ambassade du Comité des étrangers, une délégation bigarrée composée d'une trentaine de membres qui demandait à être admis aux festivités du 14 juillet 1790, c'est-à-dire la fête de la Fédération, au nom de leur enthousiasme, de leur adhésion enthousiaste aux principes de la Révolution. Voilà comment les archives parlementaires décrivent leur arrivée. Je cite, « Une députation d'étrangers, tels que Arabes, Américains, Chaldéens, Indiens, Prussiens, Syriens, Polonais, Brabançons, Anglais, Liégeois, Suisses, Avignonnais, Allemands, Genevois, Hollandais, Sardes, Suédois, Grisons, Italiens, Siciliens, Espagnols sont admis à la barre et viennent solliciter la faveur d'assister à la Fédération. » Alors, il faut bien sûr prendre la mesure du symbole. La fête de la Fédération, c'était véritablement la fête de la nation, la fête de l'union de toutes les provinces de France venues se fédérer pour célébrer l'anniversaire de la prise de la Bastille. La fête de la Fédération, c'est ce moment unanime, écrit Michelet, où la nation tout entière marche sous un drapeau fraternel. Si bien qu'en demandant à y participer, cette ambassade pittoresque de Klotz manifestait le désir des étrangers d'être ainsi intégrés à la France révolutionnaire, mais elle signalait aussi la possibilité d'une ouverture de la nation. Elle rappelait que les principes révolutionnaires, notamment ceux des droits de l'homme, suscitaient l'adhésion au-delà des limites de la France. Une gravure de Duplessis Berthaud, conservée au musée Carnavalet, représente l'arrivée de cette délégation qui a frappé les esprits des contemporains. Vous voyez ici, donc dans la salle du manège, aux Tuileries, où se réunissait l'Assemblée, un ensemble de personnages, notamment là, donc sur la gauche, qui sont en costume oriental. Vous voyez bien, mais vous pouvez trouver l'image en ligne sur le site du musée Carnavalet. En costume oriental, avec turban et pantalon bouffant. Et en effet, à côté des Européens présents, figuraient plusieurs personnages d'origine plus lointaine, notamment des personnages de couleur originaires des colonies, mais non identifiés nommément, et quelques personnages présentés comme des orientaux, vêtus donc à la turque. Alors, la cérémonie a suscité à l'époque une controverse. Certains ont accueilli avec joie cette marque d'enthousiasme révolutionnaire qui leur semblait confirmer l'attrait universel des principes de 89. D'autres, au contraire, étaient plus sceptiques et se sont moqués de l'aspect un peu histrionique de la délégation, prétendant que la plupart de ces prétendus étrangers étaient en réalité des acteurs déguisés. Alors en réalité, on sait que la plupart d'entre eux étaient bien des étrangers, même si Claude s'en avait rajouté en les affublant de costumes exotiques, donc il avait surjoué, si vous voulez, leur caractère d'étrangéité, mais on en connaît certains qu'on peut identifier. Par exemple, Denis Chaouiche, qui était un arabe chrétien, arrivé à Paris en 1783, qui travaillait comme traducteur à la bibliothèque du roi et qui avait contribué, à la demande de Claude, à réunir donc le contingent oriental, parce que vous voyez qu'il y avait beaucoup d'Européens, étrangers européens, mais aussi, grâce à Chaouiche, un petit contingent, par exemple, son collègue de la bibliothèque, il n'était pas allé chercher très très loin, mais il avait trouvé donc un Arménien qui s'appelait Chamas, hein, et qu'on a lui aussi pu identifier. Alors, Chaouiche a même pris la parole lors de cette séance. Malheureusement, son discours n'a pas été conservé. On trouve simplement dans le procès-verbal ceci. Un arabe a ensuite exprimé les sentiments de respect et d'admiration que lui inspire une constitution destinée à faire le bonheur de l'univers. Et on sait que le président de l'Assemblée, le baron Menou, déclare ensuite, c'est aussi dans le procès-verbal, « Messieurs, c'est l'Arabie qui jadis a donné à l'Europe des leçons de philosophie. C'est elle qui, ayant conservé le dépôt des sciences exactes, a répandu dans le reste du monde les connaissances sublimes de toutes les parties des mathématiques. Aujourd'hui, la France, voulant acquitter la dette de l'Europe, vous donne des leçons de liberté et vous exhorte à les propager dans votre patrie. » Et on doit à Yann Koller d'avoir suivi et reconstitué notamment le parcours de Chaouiche pendant la Révolution. Klotz, en meneur de troupes, en véritable meneur de troupes, a d'ailleurs donné à cette occasion un premier échantillon de son éloquence politique, guidé, disait-il, par l'enthousiasme de la liberté universelle. Son discours fut imprimé et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manquait pas d'emphase et de lyrisme. Par exemple, il déclare à propos de la fête de la Fédération « Cette solennité civique ne sera pas seulement la fête des Français, mais encore la fête du genre humain. La trompette qui sonne la résurrection d'un grand peuple a retenti aux quatre coins du monde et les chants d'allégresse d'un cœur de 25 millions d'hommes libres ont réveillé les peuples ensevelis dans un long esclavage. Un nombre d'étrangers de toutes les contrées de la terre demande à se ranger au milieu du champ de Mars et le bonheur de la liberté qu'ils élèveront avec transport sera le gage de la délivrance prochaine de leurs malheureux concitoyens. » Vous voyez ? Après cette cérémonie, Claude prit son nouveau rôle très au sérieux. Il décida de s'octroyer à lui-même le titre d'orateur du genre humain et n'hésita pas à rédiger de sa propre initiative des certificats de civisme pour des étrangers ayant participé à la fête de la Fédération. Alors il faut bien dire que Anacharsis Claude, c'est un personnage très différent de Volney, bien qu'il partage avec lui donc cet universalisme radical. Il est né en Allemagne, près de Clèves, en 1755, au sein d'une famille d'origine hollandaise. Il a bénéficié d'une éducation française, fréquenté l'école militaire fondée par Frédéric II à Berlin, puis s'est fixé à Paris au début des années 1780. Il s'est lié avec les milieux philosophiques, professé son attachement à la mémoire de Voltaire, sa critique des religions et son dévouement à la France. À l'époque, il se dit ouvertement gallophile. Et il propose même le rattachement à la France de la rive gauche du Rhin, convaincu que la propagation des Lumières depuis Paris permettra à l'Europe d'atteindre, je cite, le dernier degré de la civilisation. Vous voyez qu'il est ainsi, avant la Révolution, parfaitement en phase avec ce que j'avais appelé l'universalisme historique, y compris dans son versant le plus franco-centré, qui veut faire de Paris la capitale et le modèle des nations civilisées. Avec la Révolution, cet intellectuel exalté trouve enfin un rôle à sa mesure, celui donc d'orateur du genre humain. Lié aux Girondins, il intervient activement dans le débat politique, soutient vigoureusement l'entrée en guerre en avril 1792 et publie un manifeste en faveur de la République universelle qui invite à éliminer les tyrans et à supprimer toutes les frontières. Il est devenu ainsi le prophète d'une expansion illimitée de la Révolution. Un an plus tard, il rompt avec les Girondins, auxquels il reproche leur fédéralisme, se rapproche de la sans-culotterie parisienne, promoteur toujours infatigable de la République universelle et militant d'un athéisme de combat, il devient doublement suspect. Il est exclu de l'Assemblée nationale en décembre 1793, jugé par le tribunal révolutionnaire en même temps que Hébert et ses amis, et exécuté en avril 1794. Je vais revenir tout à l'heure sur la fin de Clotz. Alors, son projet de république universelle, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, a rarement été pris véritablement au sérieux. L'historiographie jacobine n'a voulu voir en Clotz le plus souvent qu'une sorte d'agitateur opportuniste, voire un provocateur au service de la Prusse. Au mieux, on a conservé l'image d'un utopiste fourvoyé, généreux mais mégalomane. Par exemple, Albert Mathiez le décrivait comme un homme préoccupé d'attirer l'attention et de faire parler de lui, je cite, « Anacharsis n'eut jamais que la sincérité de l'homme de lettres qui fait la roue devant le public. » Michel Vauvel se disait désemparé face à la mégalomanie et parfois au délire d'un tempérament incontrôlé. Quant à Marcel d'Origny, il évoquait les visions fumeuses d'Anacharsis, son activité brouillonne et son cynisme de nanti. Rares furent les historiens, comme Jean Jaurès, à reconnaître en Clotz un universaliste sincère, authentiquement acquis aux idéaux cosmopolites de la Révolution. Les travaux qui lui sont consacrés sont assez rares. Deux biographies datant des années 1990, celle de Roland Mortier et celle de Françoise Labbé, une petite poignée d'articles, et très récemment, une monographie issue d'une thèse par un jeune chercheur, Frank Eschby-Poulsen, qui s'efforce, à contre-courant de la bibliographie dominante, d'étudier le républicanisme cosmopolite de Clotz comme une pensée politique cohérente et novatrice, nourrie de toute la philosophie des Lumières. Alors, Clotz lui-même n'a cessé de proclamer qu'il développait un véritable système philosophique et politique. Système est d'ailleurs un terme qui revient très souvent sous sa plume. Il parle, par exemple, de son système de la nation unique ou encore de son système philanthropique. Il théorise aussi le fait de ne pas rédiger de véritables traités philosophiques, mais de courts pamphlets. Comme lui-même l'écrit, ce n'est pas avec de gros livres qu'on opère des révolutions. Les grands ouvrages de Penn et de Sieyès n'ont que 100 pages d'impression. Ces deux brochures ont remué les deux mondes. Le vrai moyen d'éviter le poids du papier, c'est de viser au poids des idées. Même s'il a beaucoup lu, Clotz n'est donc pas un philosophe, il se veut avant tout un penseur dans l'action. Et de fait, il n'a cessé de 1790 à 1794 de multiplier les brochures, les articles de journaux, parfaitement conscient du nouvel espace médiatique créé par la Révolution et des nouvelles conditions de mobilisation de l'opinion. Clotz utilise tous les ressorts de cette nouvelle forme de communication politique, utilisant des formules frappantes, répétant inlassablement les mêmes arguments, n'hésitant pas à se mettre en scène avec une absence totale de modestie qui, il faut dire, laisse parfois pantois. Par exemple, lorsqu'il explique le titre d'orateur du genre humain qu'il s'est attribué, il écrit « Qu'est-ce qu'un orateur du genre humain ? C'est un homme pénétré de la dignité de l'homme, c'est un tribun qui brûle d'amour pour la liberté et qui s'enflamme d'horreur contre les tyrans, c'est un homme qui, après avoir reçu la sanction de son apostolat universel dans le sein du corps constituant de l'univers, se dévoue uniquement à la défense gratuite de tous les millions d'esclaves qui gémissent d'un pôle à l'autre sous la verge des aristocrates, etc., etc. Bon, je vous fais grâce de la suite. Là, c'est quand il parle de lui-même, hein, vous voyez, c'est décrit son propre rôle. Donc, vous voyez à la fois l'omniprésence du langage de l'universel, hein, le corps constituant de l'univers, et la conception assez généreuse qu'avait Clootz de son propre rôle. Il se situe ainsi dans la continuité de ses publicistes, étudiés par Christophe Streb dans une thèse à paraître à la Voltaire Foundation, c'est-à-dire, les publicistes, ce sont ces auteurs qui, à la fin du XVIIIe siècle, n'hésitaient pas à se mettre en avant dans leurs écrits, à enflammer l'opinion autant qu'à l'éclairer, c'est-à-dire à appeler aux émotions des lecteurs tout autant qu'à leur raison. Cette posture d'auteur, associée à des positions radicales et à un sens aigu de la théâtralité, ont beaucoup contribué à la célébrité de Clootz pendant la Révolution, mais aussi ont beaucoup nui à sa réputation posthume. Alors, il est vrai aussi, il faut reconnaître, que Clootz n'est pas toujours très conséquent. Alors même qu'il avait fait participer des libres de couleur à son ambassade, à sa délégation de juin 1790, dont je viens de vous parler, il se rallia en même temps au combat de Barnave contre l'abolition de la traite et s'opposa aux propositions de la Société des Amis des Noirs. Son argument faisait écho à ceux des milieux marchands et coloniaux dont nous avons parlé il y a 15 jours. Je cite, « Une démarche précipitée ruinerait la France, appellerait la banqueroute, renverserait la Constitution, et en voulant rendre libres 500 000 Noirs, on aurait rendu esclaves 25 millions de Blancs. » Et d'ailleurs, des gens de couleur et nègres libres, comme eux-mêmes se désignaient, furent choqués par cette contradiction et écrivirent une lettre ouverte publiée dans la presse dans laquelle ils menaçaient de choisir un autre orateur à moins que Clootz accepte de se déjuger. Hein, vous voyez cet espace public comme ça la Révolution. Alors cette hésitation de Clootz et même cette espèce de palinodie de Clootz apparaissait d'autant plus choquante que pour le reste son universalisme était parfaitement radical. Sa République universelle se présentait comme l'aboutissement logique dans le domaine politique de l'universalisme humaniste et cosmopolite des Lumières. Elle reposait sur la conviction que les droits universels ne sont réservés à aucun peuple. Je cite, dans sa République universelle, « Je défie de me montrer un seul article de notre Déclaration des droits qui ne soit pas applicable à tous les hommes, à toutes les nations. » La diffusion large des Lumières à travers les acquis de la Révolution était donc une priorité, mais celle-ci ne devait pas prendre la forme d'une multiplication de répliques nationales, mais former un véritable État mondial. Et c'est en cela que Clootz s'opposait sur le plan politique à Brissot et sur le plan philosophique à Kant, qui lui aussi avait une position cosmopolite, mais ne croyait pas à la possibilité d'un État mondial, ne le jugeait même pas souhaitable, craignant les risques de tyrannie inhérente. Or, pour Clootz, le principe national, même fondé sur la souveraineté populaire, même dans une forme républicaine, est nécessairement néfaste. Il crée des barrières artificielles entre les peuples, il reproduit une sorte de féodalité à l'échelle internationale. La tâche qui attend les révolutionnaires est d'abolir, je cite Clootz, d'abolir la féodalité universelle après avoir aboli la féodalité intérieure. Si les droits de l'homme sont véritablement universels, dit Clootz, alors il ne doit exister qu'une seule république, celle du genre humain. C'est ce qu'il appelle son système de la nation unique. C'est l'article fondamentale sur lequel repose sa République universelle, la souveraineté réside essentiellement dans le genre humain entier. Vous voyez le démarquage par rapport à l'article 3 de la Déclaration. Ainsi, Claude se débarrasse de la contradiction entre l'universalité des droits et le particularisme de la souveraineté nationale en faisant coïncider le principe normatif du droit naturel et le principe politique de la souveraineté. Les autres éléments de sa pensée découlent logiquement de cette prémisse. Claude, c'est un athée revendiqué, il est hostile aux religions révélées et promeut un culte de la raison pour en finir avec la diversité des croyances qui sont autant d'obstacles à la fraternité universelle. Son adhésion au libéralisme économique repose de même sur la conviction que le commerce rapproche les hommes. L'universalité de la raison et du commerce fonde ainsi l'unité politique du genre humain sur la base d'un rationalisme à la fois matérialiste et démocratique qui fait fi des différences culturelles et historiques. Claude est fondamentalement un individualiste. Rien ne doit s'interposer entre l'individu et le genre humain. Ni État, ni communauté, ni corporation. Il pense d'ailleurs à un moment appeler sa République universelle la République des individus unis, par opposition au fédéralisme des États-Unis. L'universalisme de Claude est plus que conséquent, il est absolu. Il pousse à son extrême limite le refus des frontières politiques. Rejetant le principe moderne de la nation comme lieu d'effectuation particulier de l'universel, Claude, lui, fusionne le nouvel idéal cosmopolite avec les deux principes anciens de l'universalisme, d'une part le modèle impérial romain et d'autre part l'évangélisme chrétien. Alors, le premier ne surprend pas. Claude écrit par exemple « Un citoyen français sera considéré aux extrémités de la terre comme jadis un citoyen romain ». Le second est plus étonnant chez cet athée revendiqué, mais il traduit bien la façon dont l'universalisme de la liberté prend le relais d'un principe universaliste longtemps porté par l'Église chrétienne. Nous en avions parlé en décembre. Claude écrit par exemple « La République universelle remplacera l'Église catholique et l'Assemblée nationale fera oublier les conciles œcuméniques ». L'utopie révolutionnaire retrouve ainsi les deux motifs de l'universalisme médiéval, mais en les renversant totalement. L'universalisme impérial devient un républicanisme étendu aux frontières du monde. L'universalisme chrétien devient un universalisme humanitaire fondé sur la religion des droits de l'homme. Claude fait ainsi reposer son projet sur trois piliers. L'universalité des droits de l'homme, qui ne valent que s'ils valent universellement. Deuxièmement, l'inanité des frontières naturelles, car rien ne peut interdire la circulation des hommes, des textes et des idées. Comme il l'écrit, je cite, « Nous recevons chaque jour sur la scène des courriers et des avis de Rome et de Dublin, de Lisbonne et de Pétersbourg, de Boston et de Batavia, et l'on nous parle encore des barrières naturelles de la France. » La mondialisation de l'information a précédé et annoncé la République universelle. Même la disparité des langues doit s'effacer devant la supériorité du français. Enfin, troisièmement, la pluralité religieuse doit disparaître avec toutes les religions transcendantes. Il ne restera qu'une seule divinité, la nature elle-même, nécessairement universelle, à travers laquelle l'humanité s'adorera elle-même. Comme l'a résumé Jean Jaurès, dont je vous ai dit qu'il était un des seuls dans les grands historiens de la Révolution à avoir pris le projet de Claude au sérieux, il faut dire qu'il le regardait à travers son propre prisme internationaliste, je cite, « L'unité humaine sera fondée sur une triple base juridique, économique et religieuse, universalité du droit, universalité de l'échange, universalité de la croyance, une sorte de panthéisme juridique, moral et cosmique enveloppera dans son unité les libres diversités humaines. » Alors Claude n'a pas été insensible à la proximité entre ses propositions et celle de Volney dans les ruines. Il signale explicitement leur proximité, mais lui n'écrit pas de fiction. Il se confronte aux réalités de la politique internationale. En 1791, lorsqu'il publie « L'orateur du genre humain », son rêve universaliste est encore pacifique. Il veut faire de Paris le centre d'une immense république où convergeraient les députés du monde entier, comme en écho à l'Assemblée des peuples. Il écrit « Je vois les députés de l'Afrique et des deux Indes concourir dans notre aréopage au bonheur des Français du Gange et du Golfe mexicain. La liberté remplacera les places vides et l'Assemblée nationale de France sera l'Assemblée nationale du monde. » Alors en revanche, lorsqu'il publie en avril 1792 « La République universelle », les choses ont changé. La France vient de déclarer la guerre à l'empereur d'Autriche, Léopold II. Clauze, héros d'une république universelle et pacifique du genre humain, considère désormais que celle-ci ne pourra être que le résultat d'une victoire militaire de la France révolutionnaire sur les tyrans. À ce moment-là, il est proche de Brissot et des Girondins et il publie des articles ouvertement bellicistes. Par exemple, une adresse aux Français en août 1792, dans laquelle il écrit « La France est debout, ses épais bataillons nourrissent l'espoir du souverain opprimé, la Gaule sous les armes promet de superbes destinées aux diverses fractions de la République universelle, la dernière guerre des tyrans sera suivie de la première paix du genre humain. » Alors, ce thème de la dernière guerre avant la paix perpétuelle est fréquent dans le discours belliciste-pacifiste de la Révolution. L'originalité de Clauze, c'est d'associer l'éloge de la France en armes et le rejet de tout principe national. La France est l'instrument de l'universalisation des droits. Ses conquêtes sont nécessaires, mais elles se font au nom du genre humain en vue de la disparition des nations. Il écrit ainsi « Je prie nos législateurs d'examiner dans leur sagesse s'il ne serait pas très convenable et très politique de substituer au cri de « Vive la nation » le cri plus beau, plus généreux, plus éclatant de « Vive le genre humain ». La partie est comprise dans le tout. Lorsque les colons de la France ne connaissaient que leur lieu natal, ils criaient « Vive Pontoise, vive Paris ». Lorsqu'ils étaient parqués en trois ordres, ils criaient « Vive le tiers-état ». Nous sommes des hommes maintenant, crions donc « Vive le genre humain ». On conviendra que toute autre formule est étroite, mesquine, inconséquente, injurieuse aux nations qui vont s'unir avec nous pour briser le joug de la tyrannie universelle. Français, vous êtes les déclarateurs des droits de l'homme, soyez conséquents. Tous les spectres tomberont par terre si, à l'appui de puissantes armées, nous faisons retentir le ciel du cri tyrannifuge de « Vive le genre humain ». Alors, si les députés de 1789 ont halluciné l'humanité dans la nation, comme nous l'avions dit il y a trois semaines, que dire de Clauze ? Au fond, il radicalise à outrance l'idée de la France comme vecteur de l'universel. C'est une mission historique, mais provisoire. La nation française doit s'abolir pour que cet universel triomphe grâce à ses armes, mais dans la constitution d'une vaste république universelle, un État mondial qui réunira tous les peuples sous la souveraineté universelle du genre humain. À l'été 1792, cet universalisme républicain revendiqué, qui affirme la nécessité de mener la guerre contre les tyrans au nom du genre humain, est parfaitement en phase avec l'évolution de la politique révolutionnaire, surtout après la chute de la monarchie le 10 août. Quelques jours plus tard, donc le 26 août 1792, l'Assemblée législative décide d'accorder la citoyenneté française et tous les droits politiques à 18 étrangers pour saluer leur engagement dans les combats révolutionnaires. Parmi eux, Thomas Paine, le fameux révolutionnaire américain qui réside alors à Paris, Thomas Clarkson, que nous avons déjà rencontré, figure majeure de l'abolitionnisme anglais, Joseph Priestley, savant anglais, admirateur de la Révolution, et donc notre ami Anacharsis Clauze. Il s'agissait d'ouvrir la citoyenneté aux bienfaiteurs de l'humanité, selon la formule de Marie-Joseph Chénier, qui ajoute « L'élite des hommes réunis de tous les points de la Terre ne semblerait-elle pas le congrès du monde entier ?» La décision suscite néanmoins des inquiétudes, des réserves. Par exemple, Bazire, qui est un député de la gauche de la montagne, s'insurge « Vous livrez la Convention aux étrangers !» D'autres propose une citoyenneté simplement honorifique, sans les droits politiques. Mais à cette date, l'objection reste minoritaire, donc on est en août 1792. Le mouvement qui porte à ouvrir la citoyenneté aux étrangers ralliés à la Révolution semble dans la continuité d'une ouverture de la nation sur le monde qui s'exprime à l'Assemblée depuis plusieurs mois. En octobre 1791, par exemple, le député Garand de Coulon avait proposé que l'on fasse appel à tous les esprits éclairés du monde pour améliorer l'élaboration des lois, de façon à ce que celles-ci soient véritablement conformes à la raison universelle. Il avait dit aux députés, les lois que vous devez faire ne doivent plus être les lois particulières à un seul peuple, elles doivent être l'expression immuable de la justice, de la raison et de l'humanité. Alors, vous voyez, il y a tout un mouvement comme ça, et dans la foulée du décret du 26 août 92, Claude est élu à la Convention quelques semaines plus tard, dans deux départements, c'est-à-dire dans l'Oise et en Saône-et-Loire. Cette séquence qui aboutit à l'élection à la Convention de deux étrangers, Claude donc, mais aussi Thomas Paine, correspond peut-être au moment le plus ouvertement universaliste de la Révolution. Il n'est pas à 89, mais qui est plutôt l'été 92. C'est-à-dire le moment qui envisage un découplage de la citoyenneté et de la nationalité. La citoyenneté pourrait s'élargir bien au-delà de la communauté nationale pour former une sorte de communauté morale et politique regroupant les individus en France et dans le monde ralliés aux idéaux et au combat de la Révolution. Il reste néanmoins que cette ouverture n'était pas dénuée d'ambitions diplomatiques, comme l'a suggéré Maxime Cassis, qui note que les Britanniques étaient surreprésentés parmi les 18 étrangers qui ont obtenu la citoyenneté dans un contexte où le rapprochement avec l'Angleterre contre l'Autriche et la Prusse restait une possibilité. Surtout, cette ouverture n'était pas dénuée d'ambiguïté. Suzanne Dessant, qui a étudié les débats aboutissant au décret, montre qu'il existe une équivoque implicite entre la rhétorique universaliste, celle de la fraternité universelle, et d'autre part, un modèle cosmopolite hérité des Lumières, hérité des projets de paix perpétuelle du XVIIIe siècle, qui soulève plutôt la question des relations diplomatiques dans le nouveau contexte révolutionnaire. Comment penser les relations internationales dès lors que la France est une république entourée de monarchie, et une république qui, depuis mai 1790, a proclamé son refus de toute guerre de conquête et son désir de paix. Or, il se trouve que cette ouverture cosmopolite correspond aussi à une grande poussée patriotique, celle bien sûr de l'été 1792, qui conduit à la victoire de Valmy le 20 septembre. Le discours universaliste, celui de la France accueillant en son sein tous les défenseurs des droits de l'homme et les amis de la liberté, est indissociable de ce contexte. Le combat pour la liberté universelle se déroule très concrètement sur les champs de bataille du Nord. Le décret du 26 août relève aussi de cette mobilisation générale où le patriotisme se nourrit de son ambition mondiale. Les Révolutions de Paris, le journal de Louis-Marie Prudhomme, salue ainsi le décret « Chanceuse France, tu vas devenir la patrie du monde, le berceau du monde, l'école de l'humanité. » Alors, Claude s'est apparemment à l'aise avec cet universalisme gallophile, mais en réalité, il va beaucoup plus loin. Il va beaucoup plus loin, c'est un point essentiel, parce que lui affronte ouvertement cette question épineuse qui est celle du statut spécifique de la France comme nation dans l'avènement de cette République universelle. S'agit-il de faire de la France la patrie du monde ou l'instrument d'une émancipation universelle? Et comment s'assurer de l'adhésion des populations? Comment faire en sorte que les guerres révolutionnaires soient bien des guerres de libération et non des guerres de conquête? À vrai dire, c'est la question essentielle, celle que personne ne veut regarder en face. Et Claude, lui, met les pieds dans le plat. La France, explique-t-il, n'est que l'instrument de l'universalisation de la liberté. C'est son exemple qui doit enflammer les consciences, ce sont ses armées qui doivent mettre ensuite en fuite les tyrans, mais ce faisant, la France doit acter son propre dépassement. elle est amenée à se dissoudre dans la République universelle. Alors, vous avez entendu tout à l'heure, c'est déjà ce que Clauss disait à l'été 1792, mais l'écoutait-on vraiment ? Sans doute pas. Et il va le dire beaucoup plus explicitement au printemps 1793, au moment d'exposer à l'Assemblée ses bases constitutionnelles de la République du genre humain. Il rejette alors hautement l'idée que sa République universelle ne serait que le prétexte de l'expansionnisme français. « Je ne connais ni domination française, ni constitution française. Les droits de l'homme rallient tous les individus sous la domination humaine. » Pour preuve de sa bonne foi et pour gagner à sa cause tous les peuples, il propose rien de moins que la suppression du nom français. Au même titre, explique-t-il, que les noms de Bourguignon, de Normand ou de Gascon. Le projet national français n'a été qu'une étape qui doit désormais être dépassée. Alors, abandonner le nom français, soit, mais quel nom choisir pour cette République universelle ? Clauss a une idée de génie. Il avance une proposition qui lui semble à la fois très sage et très politique. Pourquoi très politique ? Parce qu'elle lui permettra de se concilier, dit-il, une vaste contrée voisine. Vaste contrée voisine, voici la proposition. Clauss propose de la rebaptiser la République des Germains. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu, Clauss propose de rebaptiser la France République des Germains. Alors, bien sûr, il joue sur le double sens du mot, à la fois la référence évidemment à la Germanie, mais aussi l'existence de liens de parenté au sens ancien de frère germain qui subsiste, comme vous le savez, dans l'expression cousin germain ou cousin issu de germain. Néanmoins, on imagine quand même l'incrédulité des députés et des électeurs patriotes face à cette proposition, on pourrait qualifier de hardie, sorte de gambit onomastique dans lequel Clauss voit l'aboutissement logique et irréfutable de son universalisme. C'est la citation que je vous ai mis là. « Universel de droit, germain de fait, nous jouirons incessamment des bénédictions de l'universalité. Ceux qui ne sentiraient pas la philosophie de cette pensée seraient aussi récusables au tribunal de l'opinion qu'un sophiste qui prétendrait que les articles de la Déclaration des droits n'appartiennent pas à tous les hommes, à tous les climats. » Alors, comme vous l'imaginez bien, cette proposition a été accueillie avec des moqueries et des protestations. Clauss est désormais à contre-courant, lui-même s'est radicalisé, l'enthousiasme du gallophile des années 1780, de plein pied dans le cosmopolitisme européen des Lumières, a cédé la place à un théoricien utopique de l'universalisme du genre humain. Alors, il fallait sans doute un étranger, même hautement francophile, pour adresser une telle leçon d'universalisme aux révolutionnaires. Louée pour son œuvre révolutionnaire, la France est niée comme communauté nationale. Alors voilà qui était difficilement acceptable pour ses contemporains, peu enclin à fondre le patriotisme dans l'amour du genre humain, encore moins à sacrifier le nom français sur l'autel de l'universel. Il est vrai que le contexte, en 1793, a fortement changé. Et Clauss va en subir les conséquences. L'enthousiasme cosmopolite de l'été 1792 appartient désormais au passé. En décembre 1793, le 6 niveaux en 2, Clauss comme Paine sont exclus de l'Assemblée. Ce n'est pas seulement leur position politique qui est en cause, même si on reproche à Paine ses liens avec Condorcet et à Clauss son combat pour la déchristianisation, mais comme l'a montré Sophie Vanisch, il s'agissait bien d'un mouvement de crispation nationaliste et même de régression xénophobe, dont on trouve d'autres expressions au même moment, notamment dans l'omniprésence de la dénonciation des étrangers dans le discours politique, l'étranger étant désormais identifié au suspect, au traître, à l'ennemi. Et par exemple, la loi sur les étrangers du 3 août 1793 obligeait les étrangers recevant un certificat d'hospitalité à porter au bras un ruban avec le mot « hospitalité » et le nom de la nation dans laquelle ils sont nés, même si la loi, semble-t-il, fut peu appliquée. Le décret d'exclusion du 6 niveaux explicite d'ailleurs la clôture de la représentation politique sur le principe national. Il stipule que, je cite, « tous individus nés en pays étranger sont exclus du droit de représenter le peuple français. Il a été précédé la veille d'un long discours de Robespierre, qui en appelle au patriotisme contre les factions, puis d'un discours de Barère, qui va plus loin encore dans le rejet de l'universalisme révolutionnaire. Il déclare, je cite, « Ce n'est pas par une philanthropie atroce que les ennemis de la patrie ont dit qu'il fallait choisir, ce n'est que par une philanthropie atroce que les ennemis de la patrie ont dit qu'il fallait choisir les défenseurs de la France dans la République universelle. » Philanthropie, je vous l'avais dit il y a 15 jours, désigne dans le langage révolutionnaire les discours humanitaires fondés sur les droits de l'homme, volontiers accusés de nuire aux intérêts patriotiques. On le trouvait sous la plume des conservateurs et du lobby colonial pour s'opposer aux préoccupations des amis des Noirs. Le voici désormais mobilisé par les Jacobins au nom de la nation révolutionnaire. Les attaques contre Claude, contrairement à ce qu'affirment certains historiens, ne se concentrent pas sur son athéisme, mais bien plutôt sur son système de république universelle. Si on lui reproche son matérialisme athée, c'est bien son manque de patriotisme qui suscite les attaques les plus féroces. On le renvoie à ses origines, lui qui n'a eu de cesse de les effacer. Robespierre lance le coup de grâce d'une de ses formules expéditives dont il avait le secret. Peut-on regarder comme patriote un baron allemand ? Claude avait cherché à se réinventer dans et par la Révolution. Il avait changé de prénom. Anacharsis, j'ai oublié de vous le dire, évidemment, est un nom de plume. Il avait abandonné son titre de baron, effacé son origine allemande au profit d'un projet à la fois gallophile et universaliste. Le voilà renvoyé à cette double identité, un baron allemand. À la fois aristocrate et étranger, doublement suspect, doublement ennemi de la nation. Claude incarne parfaitement et à son corps défendant les contradictions de l'universalisme révolutionnaire. Le moment d'enthousiasme qui a couru du printemps 1790 à l'été 1792 est passé. Alors bien sûr, Claude apparaît aussi à certains égards comme une caricature. Je vous l'ai dit, il est excessif, histrionique, égotiste, il provoque volontiers le rire. Son projet de république universelle est utopique, improbable, sans doute irréalisable. Mais il a le mérite de confronter le discours révolutionnaire à ses propres contradictions entre le langage universaliste des droits et le projet national démocratique. Il révèle que l'universalisme n'est pas seulement une extension idéale ou idéalisée de la nation démocratique, mais qu'il peut être aussi une menace. Ne risque-t-il pas de dissoudre la communauté politique issue de la Révolution dans une humanité sans limite et donc sans réel contenu ? Ne va-t-il pas ressusciter la monarchie universelle sous le nom de République universelle ? Comment s'exercerait pratiquement la souveraineté démocratique dans un État mondial soumis uniquement aux forces du commerce et à la circulation généralisée ? La nation n'est-elle pas le lieu à la fois où doit s'exercer la démocratie, mais aussi, comme le dira Edgar Quinet au XIXe siècle, dans un texte repéré et cité par Anne Koutchek, la condition nécessaire d'une émulation entre les nations contre le nivellement mondial proposé et espéré par Claude. Mais comment la nation pourrait-elle renoncer à l'horizon universaliste ouvert par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sans tourner le dos à la promesse révolutionnaire ? La semaine prochaine, nous verrons comment d'autres acteurs de la Révolution, comme l'abbé Grégoire, lui ont opposé une toute autre conception de l'universel, fondée au contraire sur un approfondissement du principe national. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.